avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Olivier Drapé, bonjour.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, votre intervention porte sur la gauche et l'euthanasie.
D'une certaine manière, oui, c'est-à-dire que je voudrais revenir sur un préjugé très fort et qui repose sur, en partie sur une réalité selon lequel seuls les catholiques, plus ou moins intégristes parfois, les conservateurs, des réactionnaires passéistes s'opposent à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, tandis que les progressistes, pour aller vite, ou les gens de gauche, seraient naturellement des défenseurs de l'euthanasie, ce qui ne correspond pas à la complexité de la situation telle qu'on peut l'observer, parce qu'en réalité, il y a un certain nombre de personnes ou de personnalités de gauche qui se revendiquent de gauche en tout cas, et qui prennent des positions selon lesquelles finalement, les progressistes qui soutiennent la légalisation de l'euthanasie, de l'aide active à mourir, du suicide assisté, font fausse route. Font fausse route par rapport à leur engagement de gauche, précisément. Et pour cela, je voudrais citer un certain nombre de personnalités ou de témoins qui, tout en étant de gauche et clairement de gauche, ont néanmoins une forte réticence et parfois une opposition totale à la proposition de loi que le Parlement, l'Assemblée nationale, est en train de voter. Premier exemple, un député communiste, en fait ancien député communiste, il n'a pas été réélu en 2024, Pierre Dharréville, député des Bouches-du-Rhône, à l'Assemblée nationale, le 27 mai 2024, voilà ce qu'il déclarait. C'est un homme de gauche qui vous parle, un communiste qui a longtemps médité sur la fin de vie. Je suis saisi d'un vertige sans fond devant l'admission du suicide assisté et de l'euthanasie au rang des gestes de la République. Mourir peut-il entrer dans les droits de la personne humaine ? Drôle de renversement, drôle de fraternité. Confondre soulager la souffrance et abréger la vie, c'est franchir une barrière éthique. À partir de quand une vie ne vaut-elle plus d'être vécue ? À partir de quand la société peut-elle se permettre d'en décider ? Il faut proclamer l'égale dignité des personnes, quel que soit leur état de santé, il faut changer de regard. C'est une position qui, à l'époque, n'était pas passée inaperçue, mais il y en a beaucoup d'autres. Je cite un autre député communiste, André Chassaigne, toujours député communiste d'ailleurs, du Puy-de-Dôme, qui lui déclare « Ce projet de loi, ou cette proposition de loi, va créer une pression que je qualifierais de diffuse sur les plus fragiles, les personnes isolées, handicapées, dépendantes et qui, dans leur conscience, vont se considérer comme étant gênantes, inutiles. » C'est un petit peu le même type d'argumentation qui est développé. Un troisième exemple, un député socialiste, Dominique Potier, déclare « Avec l'aide active à mourir, la vie de l'individu pourra être soupesée économiquement parlant. Or, je fais partie de ceux qui pensent que la vie n'a pas de prix. » Et pour le coup, ce député socialiste de Meurthe-et-Moselle met l'accent sur la dimension économique et financière du problème, c'est-à-dire qu'on considère que les personnes âgées, malades en fin de vie, coûtent cher à la société, aux finances publiques, et que peut-être on peut alléger ce poids et cette charge financière par l'euthanasie et le suicide assisté, ce qui est d'une certaine manière gravissime. Un autre exemple intéressant aussi, Elisa Rojas est une avocate et militante féministe assez connue qui, dans la revue Politis, écrit « Comment s'assurer que des personnes malades, handicapées et marginalisées, lasses de se battre contre une société qui ne fait rien pour les soutenir, ne seront pas orientées vers ce dispositif qui leur présente la mort comme solution ? En tant que personnes handicapées, nous savons que notre mort est toujours considérée comme libératrice par cette société qui nous considère comme des fardeaux. Les risques de dérive eugéniste que représente l'aide active à mourir ne sont pas hypothétiques. Il existe des précédents historiques comme des exemples à l'étranger qui n'ont rien de rassurant. Une autre militante de gauche, Alexia Soyeux, intervient finalement un peu dans le même esprit. Elle le fait dans un blog qui s'appelle Présage. Elle est l'auteur par ailleurs d'un livre qui s'intitule « L'euthanasie n'est pas de gauche, pourquoi j'ai changé d'avis sur l'euthanasie et le suicide assisté ?» Et elle est intéressante parce qu'elle écrit précisément sur le problème économique et financier qu'on évoquait. On ne peut pas raisonner de manière abstraite sur l'euthanasie sans prendre en compte le contexte de réduction des dépenses publiques depuis 30 ans, ni le fait que la vie des personnes handicapées semble ne pas valoir cher aujourd'hui, ou bien trop cher financièrement. Les experts observent que, même dans les pays où l'aide médicale à mourir est restreinte aux personnes en fin de vie ou avec une maladie terminale, les personnes handicapées, les personnes âgées et particulièrement les personnes âgées porteuses de handicap peuvent se sentir subtilement poussées à mettre fin à leur vie prématurément en raison de barrières comportementales et de l'absence de services de soutien appropriés. Absence de services de soutien appropriés. Ce qu'elle entend par là, c'est bien entendu le coût que ces services appropriés de soins palliatifs représenteraient par rapport à l'euthanasie qui est beaucoup plus expéditive et beaucoup plus économique. Exemple encore, la Fondapol. La Fondapol est la Fondation pour l'innovation politique. Alors elle est libérale sur le plan économique, mais elle est progressiste sur le plan sociétal, ce qui ne lui empêche pas d'écrire. La tentation est forte d'invoquer un droit à l'autodétermination individuelle pour légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté par défaut de moyens humains et financiers. Mais il faut en mesurer les conséquences à la lumière du laboratoire canadien. La légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté aurait pour effet, à terme, de marquer une rupture avec la construction d'un système social fondé sur l'assurance et la solidarité pour s'engager sur une pente qui exclurait les plus vulnérables, les plus isolés et les plus âgés de nos concitoyens. Les expériences étrangères et canadiennes, plus particulièrement, ont montré que les garde-fous présentés au départ comme robustes, les appels à la vigilance des contrôles d'application de la loi ne résistent pas au temps. Il y aurait bien d'autres exemples qu'on pourrait mentionner. Je conclurai peut-être ou je terminerai par une intervention un peu surprenante qui est celle de Gordon Brown, ancien Premier ministre travailliste au Royaume-Uni, qui pour sa part a surpris un certain nombre de personnes en déclarant « Passer du temps avec des personnes qui vivent leurs derniers jours m'a montré que nous n'avons pas besoin d'aide médicale à mourir, mais de meilleurs soins de fin de vie. »
Olivier Drapé, merci beaucoup.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne-Lescar-et-Oloron, 05 59 59 67 92.